le cadre du 47e festival du film de Carlo Vivari était organisée une grande rétrospective du cinéaste français Jean-Pierre Melville, dont on dit qu'il est le père spirituel de la nouvelle vague. Olivier Boller est un jeune réalisateur passionné par le cinéma de Melville. Il a réalisé un documentaire sur ce dernier et a accepté de répondre aux questions d'Anna Kubishta dans la première partie de cet entretien. Olivier Boller, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc le réalisateur du film sous le nom de Melville. Alors simplement, je vais commencer par vous demander, parce que j'ai lu un petit peu évidemment des choses sur vous, sur un peu la réalisation de ce documentaire. Comment est-ce que vous avez découvert Jean-Pierre Melville à l'origine? Est-ce que c'est une passion, une ancienne passion?
Alors je me souviens du premier film de Jean-Pierre Melville que j'ai vu, et je pense que je devais avoir une dizaine d'années, pas plus. J'avais découvert Le Doulos à la télévision un soir. C'était un film en noir et blanc, donc a priori quelque chose qui t'aurait pas intéressé les enfants de 10 ans. Et je sais que c'est une histoire dont le tragique, surtout, m'avait totalement bouleversé. Arrivé à la fin, j'étais désespéré de ce qui pouvait arriver à ce pauvre Jean-Paul Belmondo. Donc ça m'a marqué profondément. Mais évidemment, je ne savais pas à l'époque qui était Jean-Pierre Melville, sans doute même qui était Belmondo à l'époque. Et c'est que beaucoup plus tard, en revoyant d'autres films de Melville, et en m'intéressant d'un peu plus près à son cinéma, que j'ai fait le lien avec ce film qui m'avait marqué quand j'étais enfant. Donc ça remonte à très longtemps. Et sinon, la redécouverte, en fait, c'était en cherchant un sujet de thèse. En cinéma, un 14 juillet, je peux le dater très précisément.
C'est symbolique, hein.
C'est symbolique. Et oui, c'est symbolique parce que c'était comme, on va dire, quasiment tous les ans à la télévision française, la diffusion de L'Armée des Ombres, et qui est un peu, voilà, une sorte d'emblème national. Et c'est un film que je pense justement les gens ont trop vu à la télévision et qu'on a l'habitude de ne plus regarder, dans le sens où il passe et il est là, qui tourne dans le fond, et on le regarde plus pour ce qu'il est, on le regarde simplement pour ce qu'il représente d'un point de vue symbolique.
Parce que c'est un classique, donc
parce que c'est un classique, parce qu'il y a Lino Ventura, parce qu'il y a Simone Signoret, voilà. Et en fait, tout d'un coup, en regardant ce film avec un peu plus d'attention, je me suis rendu compte qu'il était absolument extraordinaire, c'est-à-dire non pas que c'était un film classique figé, etc., mais qu'il y avait derrière un auteur extrêmement puissant, avec des choix très particuliers, très radicaux, qui normalement devraient faire que ce film n'est pas un film grand public, et qui arrive pourtant au contraire à toucher absolument son public, et qui est un film qui a sans doute souffert, évidemment, d'avoir été fait entre 68 et 69, et évidemment du poids que pouvait représenter la résistance, le général de Gaulle à l'époque. C'est un film qui a été fait idéologiquement au pire moment pour qu'il soit vu, ou du moins considéré par une critique intellectuelle exigeante, qui existait bel et bien en France à cette époque-là, qui a défendu des films merveilleux, mais qui était absolument pas apte à défendre un tel film à ce moment-là. Donc c'est un film qui a rencontré un succès public immense, comme beaucoup des films de Melville, comme Le Cercle Rouge par exemple, et qui, de la même façon que Le Cercle Rouge l'année suivante, a été balayé par la critique. Et comme Melville est mort très peu de temps après, en 73,
du coup c'est tombé un peu dans les oubliettes.
C'est tombé dans les oubliettes totalement. L'œuvre de Melville est tombée dans les oubliettes. Et là, je me suis dit, en voyant L'Armée des Ombres, je me suis dit, c'est absolument absurde. Il y a un cinéaste derrière ce film qui, y compris idéologiquement ou moralement, aurait dû toucher cette critique-là. Ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas vu que ça pouvait s'adresser aussi à eux, en fait.
Alors on dit, oui, tomber dans les oubliettes, mais en même temps, un de ses plus grands films, et le film auquel on pense, je pense, à mon avis, quand on pense Melville, c'est Le Silence de la Mer, qui est son premier film, qui est un film, qui n'est pas exactement son premier film, d'après ce que j'ai pu, mais son premier long métrage, voilà.
Exactement.
Qui est un film, c'est incroyable, puisque visiblement il l'a tourné en plus dans des conditions complètement pas possibles, c'est-à-dire sans être reconnu comme un professionnel, un cinéaste professionnel, avec très peu de moyens, et pourtant qui a aussi reçu un succès important.
Oui, Le Silence de la Mer a vraiment été un film qui a eu un accueil extraordinaire. Je pense que même encore aujourd'hui, on se rend pas très bien compte de la nouveauté de ce film, qui a donc été réalisé en 46-47, en tournant un jour à chaque fois que Melville avait une journée pour payer les acteurs, les techniciens, etc. Et encore, chacun faisant évidemment des efforts considérables d'un point de vue budgétaire là-dessus, tourner avec de la pellicule achetée au marché noir, etc. Mais surtout, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que sorti de la guerre, là aussi Melville avait un parcours de résistant avec un frère qui avait été lui un leader socialiste très important. Et là, c'est un peu l'effet inverse, c'est que le film a bénéficié de tout l'aura de ce frère disparu pendant la guerre, mais qui avait encore beaucoup de connexions politiques et culturelles, et du parcours de Melville, qui lui avait permis de rencontrer des gens extraordinaires aussi pendant la guerre. Donc, quand il a pu finir ce film, et ça, effectivement, c'était pas simple du tout, mais une fois que le film a été fait, il a été porté par la critique aussi beaucoup, porté même par les distributeurs, etc. Enfin, on a des photos extrêmement intéressantes où on voit la première au Grand Rex à Paris. Pour un film tourné avec aussi peu d'argent, c'est à peu près comme si on disait qu'un film tourné avec un téléphone portable aujourd'hui avait une première au Grand Rex. On pourrait comparer à peu près ça, ce qui est donc très disproportionné. Où ils avaient même reconstitué des sortes de maquettes avec la maison dans laquelle le film a été tourné, qui était exposée dans le hall du Grand Rex. Enfin, bon, quelque chose d'assez fou. Et à la première représentation, il y avait les ministres, je me demande même s'il n'y avait pas le président de la République. Enfin, voilà, le gouvernement était là, et c'est tout de suite entré comme une œuvre appartenant à la culture française majeure. Oui, tout à fait.
Comment a réagi Vercors à ce film? Parce que je crois savoir qu'il ne voulait pas que son livre, son roman soit adapté au cinéma à l'origine.
Oui, effectivement. Alors, c'est un peu l'ambiguïté, c'est que... Et ça, je ne l'ai jamais tout à fait démêlé, c'est que... Lui, il voulait pas, disant que l'œuvre appartenait à la résistance française dans son ensemble, et que c'était donc à eux d'en juger, donc à la fameuse histoire de ce conseil de résistants réunis pour voter, savoir si le film devait ou pas être projeté, et votant oui, à l'exception d'un qui avait été le dernier invité, donc dont on n'a pas pris la... qui remplaçait quelqu'un, donc dont on n'a pas pris le vote en compte, mais... Ce qui est quand même plus compliqué à comprendre, c'est comment Vercors, ayant refusé au départ qu'on adapte son œuvre, a quand même accepté qu'on tourne chez lui le film. Là, il y a une sorte d'ambiguïté. Le film est tourné dans son salon. Donc là où véritablement, officiellement, qui lui a servi de modèle, venait tous les soirs saluer la famille. Donc il y a quand même une caution de sa part, même si, d'après ce que dit Melville, sa femme n'a pas très bien vécu le tournage, parce qu'une équipe de tournage, c'est envahissant. Mais en dehors de ça, il a donc accepté, donc je pense qu'il y avait quand même une caution. Et derrière, moi, j'ai rencontré le fils de Vercors, qui est très fier, lui, aujourd'hui, que le film existe. Et il y a clairement un soutien familial, on va dire, autour de cette œuvre. Donc je pense qu'au final, il devait en être assez, assez heureux.
On connaît peu de choses finalement sur la personnalité de Jean-Pierre Melville, ou en tout cas en profondeur. Comment est-ce que justement vous avez dans ce documentaire fait vos recherches pour essayer d'un petit peu décrypter sa personnalité?
J'avoue, après, donc j'avais fait ma thèse sur Melville donc pendant 5 ans, mais c'était uniquement d'un point de vue esthétique, donc je m'étais pas du tout préoccupé, on va dire, de sa biographie, etc. Et le peu que j'en savais, c'est que c'était quand même une sorte de tyran absolument insupportable sur les tournages. Et souvent j'ai pensé, je me disais, je suis pas sûr que j'aurais aimé le rencontrer en fait. C'était pas une grande évidence pour moi. La seule chose qui en ressortait par contre, c'est dans le livre de Rui Nogueira, c'est en même temps un monstre de culture, pas seulement cinématographique, pour quelqu'un qui avait pas fait d'études. Donc ce qui est pour nous curieux aujourd'hui, qui était sans doute plus courant à l'époque, mais quand même. Et par ailleurs, d'une intelligence, d'une finesse, d'un raffinement merveilleux. Donc sûrement en même temps, dans une discussion, quelqu'un de prodigieusement intéressant, voire même touchant, mais en tant que réalisateur, assez insupportable. Donc je me suis souvent posé la question en faisant le film, hein, même, est-ce que je vais arriver à faire un film sur quelqu'un dont je ne suis pas certain que j'aurais adoré la personnalité jusqu'au bout. Et finalement, plus je fréquentais sa biographie, plus j'apprenais des choses sur lui, etc., plus je trouvais au contraire qu'il y avait une émotion dans le personnage qui le rendait passionnant. Et ça s'est fait vraiment pas à pas, en rencontrant les gens qu'il avait connus, en fouillant dans les archives. Ça, c'était quand même des moments extraordinaires où au château de Vincennes, donc où sont tenus tous les registres de l'armée, et surtout tout ce qui concerne la Seconde Guerre mondiale, il y a des documents qui n'avaient jamais été ouverts depuis la guerre. Et même les militaires là-bas Certains des conservateurs là-bas sont des historiens de formation, même s'ils appartiennent au corps de l'armée, mais qui sont des historiens, se sont pris au jeu et m'ont aidé à chercher, m'appeler le soir en disant on a retrouvé des choses que je n'avais pas demandé, des choses dont j'ignorais l'existence. Je savais qu'il y avait un certain nombre de choses dans les cartons, mais il y a des choses qu'ils ont retrouvées, et ça c'était évidemment des moments magiques. Et là on ouvre des dossiers, on découvre des choses, comme le dossier qui contient le témoignage de Melville à son arrivée en Angleterre, puisque comme tous les évadés de France, ils étaient débriefés par les services secrets pour être sûr que c'était pas des espions de Vichy infiltrés, etc. Et où il raconte sa traversée des Pyrénées, son arrestation par les Espagnols, comment il est resté dans un camp espagnol d'abord pendant plusieurs mois, puis ensuite à fond de cale dans un navire espagnol, dans un bateau prison gardé par des soldats, etc. Comment il a vu mourir des amis à lui, etc. Et ça c'est extrêmement bouleversant. C'est des recherches qui sont passionnantes à faire.